Eh bien, bienvenue à toutes et à tous. Très heureux de que vous soyez présentes et présents pour cette rencontre intitulée Un tour du monde. Alors, nous allons partir, on va partir en Grèce avec Christophe Markogiannakis pour Qui a tué Lucie Lévis chez Plon, le crime presque parfait, un roman. Vous nous direz si c'est vrai, mais un peu quand même inspiré d'Agatha Christie. Voilà, hein, voilà, c'est un peu un hommage voilà, en filigrane. Fanta Dramé va nous proposer un voyage en Mauritanie avec son tout nouveau texte au premier.
C'est le
premier roman, donc Ajar Paris, donc dans la rentrée littéraire des éditions Plon. Et Jean-Baptiste Maudet va nous proposer un voyage au Brésil, en Amazonie plus précisément. Quelques mots quand même de présentation sur vous trois. Christophe Markogiannakis, vous êtes né en Grèce. Vous êtes un auteur de romans policiers qui mêle l'art et le crime. Après avoir étudié le droit et la criminologie à Athènes et à Paris, vous avez travaillé pendant plusieurs années comme avocat pénaliste et vous êtes déjà l'auteur de plusieurs ouvrages traduits en français, Scènes de crime au Louvre, Scènes de crime à Orsay, dans lesquels vous analysez la représentation du crime dans les tableaux de ces deux musées. Il y a eu aussi au cinquième étage de la faculté de droit en 2018 chez Albin Michel et Mourir en scène, donc chez Albin Michel en 2020. Et dans ce nouveau roman Qui a tué Lucie Lévis, on part donc dans l'île de Knissos, c'est bien ça, mais qui est une île imaginaire, mais dans laquelle on peut reconnaître toutes les îles grecques possibles fréquentées par les touristes. Donc c'est intéressant parce qu'il y a ce jeu justement sur le réel et l'imaginaire dont nous parlions tout à l'heure, Jean-Baptiste Maudet, avant de commencer cet entretien. Fanta Dramé, donc vous êtes né à Paris, vous vivez je crois dans le 19e arrondissement,
c'est bien ça.
Vous avez fait un master de lettres modernes, obtenu à la Sorbonne Nouvelle, ensuite admise au CAPES en 2013, vous enseignez je crois en Seine-Saint-Denis à Pantin. Et c'est dans le cadre de votre travail que vous avez, en vue d'organiser un atelier d'écriture avec vos élèves, que vous avez rencontré une romancière connue qui est Faïza Guen, qui signe la préface du livre, puisque vous lui avez demandé un peu conseil pour votre premier manuscrit, et les conseils ont dû être très très bons, parce que ça donne un très très beau roman, très touchant, donc qui s'appelle Ajar Paris, au cours duquel vous allez nous parler évidemment de la Mauritanie, puisque Ajar est situé en Mauritanie, donc c'est un voyage vers les origines, c'est un voyage un peu, c'est une quête un peu de, voilà, du pays, d'une autre culture, parce que vous vivez en France, vous êtes né en France, donc vous découvrez autant que votre, même plus, j'ai envie de dire, et en fait, vous parlez aussi beaucoup de votre père, c'est un peu l'odyssée de votre père qui a quitté la Mauritanie, qui est arrivé en France à un moment, donc c'est un roman très touchant, qui est un peu en deux temps, mais qui vraiment va au fond des choses et essaie de comprendre les différences culturelles, essaie de comprendre, enfin, je ne vais pas en dire plus, on va y rentrer dans le vif du sujet. Jean-Baptiste Maudet, vous êtes géographe, peut-être pas un hasard si vous vous intéressez quand même au voyage et au pays. Alors, vous enseignez à l'université de Pau. En 2018, votre premier roman, Matador Yankee, avait eu le prix orange du livre. Et on était alors, il nous proposait un voyage au Texas et au Mexique, hein, à la frontière. Ensuite, il y a eu un deuxième livre, Des humains sur fond blanc, où là, on partait, changement de pays, en mer Noire et aux confins de la Sibérie. Et vos livres explorent, en fait, on peut dire l'imaginaire géographique, en écho un peu à vos travaux de géographe. Et Tropical Tristesse, donc le tout dernier, nous transporte en Amazonie. Ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous parlez à la première personne, ça on va sûrement en parler, vous dites « je », et c'est une femme qui s'exprime, qui quitte la France pour partir faire cette odyssée un peu en Amazonie. Elle a aperçu un Indien sur un écran, enfin, qui lui a fait un peu un signe. Enfin bon, j'en dis pas plus. Alors, une première question à tous les trois. C'est vrai que vous évoquez des lieux différents, des pays différents. L'approche n'est pas la même. Vous, c'est sous forme d'un polar. Vous êtes né en Grèce, donc vous connaissez bien évidemment ce pays, Christophe Markogiannakis. Vous, Fanta Dramé, c'est un retour un peu aux origines, un voyage dans le temps, dans l'espace. Vous, c'est un imaginaire, puisque vous me disiez que vous ne connaissiez pas le Brésil, l'Amazonie, Jean-Baptiste Baudet. Est-ce que ces lieux, c'est ça qui est premier pour vous, pour tous les trois, de placer l'histoire dans un cadre, dans un lieu, beaucoup de questions sur l'Amazonie. Qu'est-ce que l'Amazonie ? Vous y revenez à plusieurs reprises. Évidemment, le titre fait allusion à Claude Lévi-Strauss, Triste Tropique. Fantadramé, quelle était la volonté de départ ? C'était d'abord un retour aux origines, comprendre mieux de l'intérieur ce qu'est la Mauritanie, qui est un pays finalement très mal connu quand on interroge.
Exactement.
Voilà, la Nouakchott, capitale, pourtant. Bon. Mais donc on découvre aussi ce pays. Quel était le dessin, l'intention de départ ?
Eh bien, moi, je perds ma grand-mère en 2013 et la décision est prise de l'enterrer à Ajar, justement, c'est le village natal de mon père. Et moi, c'est vrai que je n'allais jamais en Mauritanie. On a tendance, nous, quand on va au pays, à aller au Sénégal. Et donc, moi, je me rends à Ajar uniquement pour l'enterrement de ma grand-mère. Et effectivement, alors, petite, j'entendais parler d'Ajar, mais vraiment comme d'une contrée assez lointaine. C'est-à-dire que mon père nous disait, si vous ne travaillez pas à l'école, vous allez aller en Afrique. Et si vraiment vous travaillez très, très mal, vous allez aller jusqu'à Ajar. Et pour nous, Ajar, c'était quelque chose de... On avait l'impression que ça n'existait pas. Et quand je m'y rends, effectivement, je découvre un village totalement reculé de Mauritanie où il y a quelques habitations sommaires, une toute petite boutique qui est très vite dévalisée par la horde de Parisiens qui vient assister à l'entraînement et quelques marabouts qui traînent dans le village. Et effectivement, moi qui suis parisienne, qui suis née à Paris, qui vis toujours à Paris, j'ai trouvé ça assez incroyable, assez extraordinaire. Et je me suis donc posé une question toute simple, c'est comment est-ce que mon père a pu vivre 26 ans dans ce village, décider un jour de le quitter pour tenter sa chance à Paris, et comment est-ce qu'il a pu être aussi à l'aise à Ajar et aussi à l'aise à Paris. Ce sont deux mondes tellement différents que je ne comprends pas comment il a fait la jonction entre les deux. Raison pour laquelle je décide de lui demander de me raconter son histoire et d'en faire un roman.
Et puis à aucun moment, c'est un peu ce que j'ai lu dans le livre, vous faites le lien avec Ajar, Romain Gary, Émile Ajar. Enfin, vous découvrez.
Mon père arrive en France, il ne sait pas parler français, et donc il a encore aujourd'hui, même si ça fait 45 ans qu'il est en France, il a un accent. Et quand il dit Ajar, il dit hasard. Et donc moi, toute mon enfance, j'ai entendu parler d'hasard. Et quand je vois écrit le mot Ajar, moi qui ai fait en plus des études de lettres, immédiatement, je pense à Émile Ajar. Et justement, je me demande si Émile Ajar, qui dans La vie devant soi parle de l'ethnie de mon père, les Soninké, je me dis que peut-être il est un jour allé lui à Ajar et c'est de là qu'il a tiré son pseudonyme. Alors, je pense que c'est quelque chose à creuser. Je ne sais pas comment trouver la réponse à cette question, mais ce serait intéressant d'y réfléchir.
Vous écrivez, je ne connaissais pas vraiment la Mauritanie, le bled pour nous c'était le Sénégal, chez notre grand-mère maternelle ou chez notre tante paternelle. C'était un pays qui m'était inconnu et qui semblait aussi l'être pour le commun des mortels. Lorsque je disais que j'étais d'origine mauritanienne, on me répondait parfois, oui je connais, c'est un pays juste à côté de, aide-moi un peu, ou encore, ah oui, l'île Maurice. Dans mon enfance, il m'arrivait de voir des images du pays à la télévision, précisément pendant le rallye du Paris-Dakar, où j'observais mon père concentré devant France 2, essayant de reconnaître les habitants des quartiers dans lesquels déferlaient les grosses voitures et les motos participant à la course. Mis à part cet événement médiatisé, on n'en entendait pas souvent parler, voire jamais. Je ne comprenais pas comment ce pays, qui avait pourtant une place centrale en Afrique de l'Ouest, n'avait pas la même notoriété que ses voisins maghrébins ou subsahariens. En y réfléchissant, je me rendis compte que je ne connaissais moi-même personne qui en était originaire, excepté les membres de ma famille. Ouais. Je vivais pourtant dans un quartier cosmopolite où cohabitaient des dizaines de cultures et des nationalités différentes. Mais il n'y avait pas trace de Mauritanien.
Non, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je parle de la Mauritanie, soit les gens me parlent de l'île Maurice, ce qui n'a strictement rien à voir, ou alors je sens bien qu'ils me disent « oui, oui, je connais, mais c'est très, très vague dans leur tête ». Et pourtant, la Mauritanie, c'est un très grand pays d'Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas pourquoi, on n'en entend pas. Alors maintenant, on en entend parler pour des raisons qui ne sont pas forcément positives, parce qu'il y a eu un très grand désert en Mauritanie, et du coup, il y a forcément des factions armées, il y a même des terroristes, je crois. Et du coup, voilà, c'est comme ça qu'on entend parler de Mauritanie. Mais avant ça, écoutez, personne ne connaissait ce pays. Enfin, très peu de personnes connaissaient ce pays. En tout cas, autour de moi.
Eh oui. Alors, question à Christophe Marcogiannakis et question à Jean-Baptiste Monet. L'importance du lieu, bon, pour vous, vos précédents romans, Christophe, étaient situés en Grèce, hein, je crois.
À Athènes.
Oui. À Athènes même. Mais c'était des lieux réalistes qui existent vraiment. Alors que là, vous écrivez d'entrée de jeu, note de l'auteur, Nissos est un pur produit de mon imagination, un riche amalgame des îles que je connais et que j'aime. C'est le reflet de toutes les îles grecques dont tombent amoureux les millions de touristes qui les visitent. Le lecteur est parfaitement libre de transposer toutes les plages paysages, les images, les odeurs, les appellations du livre dans le lieu de destination de son choix en mer Égée. Tout comme l'île, les personnages et leurs histoires sont tous fictifs, nés pour les besoins de cette intrigue. Ou peut-être pas. L'un de mes écrivains préférés m'a dit un jour, si je dois devenir un personnage dans l'un de tes romans, fais de moi le méchant. Les méchants sont toujours plus intéressants.
Oui. C'est tout à fait vrai. D'abord, oui, mes deux premiers romans policiers se passent à Athènes, dans les facultés des droits où j'ai fait mes études, dans le département de criminologie, et le deuxième sur la rivière athénienne, avec la mort d'une grande diva de la chanson grecque. Mais quand j'ai commencé à penser à écrire ces romans, je me suis dit que je ne vais pas écrire un guide touristique. C'est pour ça que je n'ai pas choisi une des îles qui existe, que beaucoup de Français connaissent, comme Paros, comme Patmos, comme Mykonos. Et j'ai choisi à créer cette île fictive qui s'appelle Nissos. Nissos, en grec, c'est l'île, en fait. Et que pour chacun puisse reconnaître les sons, les odeurs, les plages de son été, de son propre été grec sur cette île. Et ça marche parce que chaque fois, il y a des lecteurs qui viennent, qui me disent « Ah oui, j'ai reconnu Paros, j'ai reconnu Sifnos, Simi, Hydra, Spetses. » Et chaque fois, j'ai dit « Oui, c'est ça. » Et il faut dire, il faut avouer en même temps que moi, je me suis inspiré par une autre île. Et depuis la parution du livre, je ne suis pas retourné parce que je ne sais pas si les personnages ont reconnu le protagoniste du livre, parce que tout est basé sur la fiction, mais la fiction est basée sur une réalité filtrée. Donc tous les personnages existent, mais je crois que la beauté de ces romans est que chacun a connu ses personnages. Quand on va sur une petite île grecque, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours une femme un peu excentrique, il y a toujours quelqu'un qui cache des secrets un peu dangereux. Et il y a le galériste, il y a le mec qui a le café, il y a les gens qui sortent ensemble pour boire un coup à la Platia. La Platia, c'est la place centrale de la Chora. Chora est la capitale de toutes les îles grecques, hein, une ville capitale qui s'appelle Chora. Donc on a la Chora ici, et c'était un pari, et pour moi c'est un pari gagné, si je crois le lecteur, que chacun a pu se retrouver à son île préférée avec ses copains sur cette île grecque, mais sans cadavres. Parce qu'il faut avouer quand même, parce que c'est une enquête policière, donc il y a 2-3 cadavres. Mais en même temps, il y a cet esprit et cette ambiance estivale grecque qui donne, j'espère, envie à quelqu'un qui ne connaît pas la Grèce de la découvrir ou d'y aller ou d'y retourner. Malgré les meurtres qui se passent.
Ouais, et puis avec aussi des considérations climatiques par moments un peu rudes, avec la tempête, le meltem, le vent.
Tout à fait. Il y a les meltem qui, si quelqu'un va en Grèce, aux Cyclades ou aux Dodécanèses, le mois de juillet et août, il y a toujours les meltem. Et parfois, on est bloqué, on est isolé, on ne peut pas partir, on ne peut pas venir. Donc je me suis dit, ce serait bien de jouer un huis clos sur une île. Voilà, c'est un petit peu comme il était 10 des Agatha Christie, isolé sur une île. Il y a une dizaine de suspects, tout à fait. Et il y a des références, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a des références vraiment christiques, Agatha Christienne, si vous voulez, dans ces livres. Et j'ai rendu hommage à l'été grec et à Agatha Christie aussi.
Alors Jean-Baptiste Maudet, Tropicale Tristesse, roman donc qui nous transporte au Brésil, en Amazonie. On va suivre Jeanne Beaulieu, ça s'appelle, c'est son prénom et son nom, et donc qui s'exprime à la première personne. Donc, je vous posais la question, on s'est vu un peu tout à l'heure, je vous demandais, intéressant de se mettre dans la peau d'une femme, et vous m'avez répondu, pour moi, l'enjeu, c'était, bon, ça c'est en effet, mais c'est aussi d'écrire à la première personne. Est-ce que vous pourriez développer pourquoi le jeu vous paraissait peut-être évident ou pas évident, enfin voilà.
Oui, alors c'est vrai que ce qui était important pour moi dans ce livre, je crois avant tout, c'était d'être capable d'écrire un récit d'aventure à la première personne. J'avais très envie d'écouter cette langue, qu'elle résonne en moi, de pouvoir dire « je » dans un roman, qu'il ne soit pas de l'autofiction. Et c'est vrai qu'au départ, le fait que ce soit une femme qui parte en Amazonie, c'était pas une évidence pour moi. Ce qui était évident, c'est que je puisse dire « je ». Et j'ai même commencé le roman avec une version où finalement, c'était un homme qui partait en Amazonie. Et je me suis heurté à des récits qui étaient sans doute très intégrés en moi, très inconscients, d'aventuriers qui partent en Amazonie, qui défrichent la forêt, qui remontent le fleuve. Et ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas parce que moi, je ne m'identifiais pas du tout à ça. Je trouvais que ça manquait un peu d'ironie par rapport à ce que j'aime faire en littérature. Et en plus, comme je ne connais pas l'Amazonie brésilienne, je connais l'Amazonie qu'à travers, on va dire, une partie du Pérou, j'étais un peu gêné à l'idée de m'inventer un personnage d'aventurier qui défriche l'Amazonie. Donc très vite, je ne sais pas comment j'ai pensé à ça, mais j'ai essayé en me mettant dans la peau d'une femme pour dire « je ». Et ça m'a complètement débloqué. Mais alors, j'ai trouvé que immédiatement, j'avais des idées qui venaient. Je voyais la forêt différemment. Je voyais le Brésil, un Brésil complètement pour moi fantasmé, parce que c'est un Brésil littéraire dans le sens où j'ai relu des ouvrages qui parlent du Brésil. Je me suis immergé dans des récits, pour le coup, dans des récits d'aventuriers, des récits de voyage. Mais j'étais très à l'aise avec cette double mise à distance, un Brésil que je ne connais pas, une Amazonie fantasmé par un géographe qui s'intéresse aux forêts et un jeu qui me permettait de m'amuser.
Alors, ce qui est très aussi intéressant dans le livre, c'est la construction, je trouve, parce qu'on va en effet suivre cette femme qui part là-bas, donc qui en fait va découvrir sur place chez un bouquiniste le triste tropique de Claude Lévi-Strauss, donc anthropologue célèbre, mais un livre qu'elle achète, mais qui est déjà annoté, dans lequel il y a des notes, peut-être des post-it, là, comme les miens, j'en sais rien. Bon. Et, donc, et elle ne supporte pas souvent d'avoir en main un livre annoté, parce que pour elle, il est déjà un peu sale, je crois, c'est le terme qu'elle emploie. Et à travers ça, elle va découvrir finalement l'histoire d'un couple, hein, Claudia et Paul. Et donc ça s'insègre parfaitement dans le récit. Et au début, on est intrigué, on dit qui est ce Paul, parce qu'on est dans les années 2009-2010, et on repart en 92 à Séville, à l'exposition universelle. Et on fait les connaissances avec Paul. Et on comprend après que le Paul est celui de l'ouvrage qu'elle a acheté. Cette construction, vous l'avez eue très rapidement en tête ou...
Alors, oui, c'est un joyeux bordel, cette construction, parce que l'idée, c'est que Jeanne... le récit se passe en 2009, juste après le crash du vol Rio-Paris. La raison pour laquelle elle choisit d'aller plutôt à São Paulo et pas à Rio, parce qu'elle est un peu superstitieuse et elle n'aime pas l'avion. Et très rapidement, elle se rend compte que d'aller chercher un Indien au fin fond de l'Amazonie, elle ne sait même pas tellement comment l'appeler. Est-ce que je vais l'appeler l'Indien, l'indigène, l'autochtone? Enfin, rien ne va. Et elle se rend compte surtout que l'Amazonie, ça fait 12 fois la France et qu'elle a très très peu d'éléments pour partir à la recherche de cette personne. Donc pour se donner un peu du courage et puis pour se prouver elle-même qu'elle est capable d'aller au fin fond de la forêt, elle va chez un bouquiniste et elle cherche des livres sur l'Amazonie. Elle achète deux livres, je vais rapidement, elle achète un livre, la biographie du général de Gaulle, elle ne sait pas trop pourquoi, parce qu'elle est française, et Triste tropique de Claude Lévi-Strauss, qui effectivement a appartenu à un couple d'étudiants qui sont tombés amoureux dans les années 90 à Séville. Et ce livre est annoté de gribouillis. Elle n'aime pas du tout les gribouillis, Jeanne Beaulieu. Elle a l'impression de rentrer dans des draps sales, c'est ce qu'elle dit. Et finalement, elle va se prendre d'amitié pour ces personnages, pour Paul et Claudia, qui se sont servis de Triste tropique comme leur journal intime et leur carnet de bord de leur histoire d'amour. Voilà. Pour la construction, voilà comment ça marche.
Et ça, c'est vrai que c'est une des originalités du livre. Mais vous dites un joyeux bordel, moi, je trouve pas. Enfin, une fois qu'on a compris après le principe, on est tout à fait embarqué. Au contraire, on attend les passages sur le couple. Elle imagine comment ils se sont rencontrés. Enfin, c'est assez génial. Fantine Ramé, alors vous, il y avait évidemment, c'est une expérience personnelle, c'est la vie de votre père. Mais j'imagine que le défi, la difficulté, c'était d'écrire un roman. C'est un roman quand même. Hein. Enfin, je sais pas comment
vous
le présentez. Voilà.
Si, c'est un roman.
Et est-ce que Faizagen, dont je parlais, qui est une romancière connue, à qui vous avez demandé des conseils, vous a beaucoup aidé, ou est-ce que vraiment...
Alors, en réalité, elle m'a aidée dans le sens où elle a demandé à son éditeur de lire mon roman, mais c'est vrai qu'on n'a pas travaillé le texte ensemble. Mais je lui ai demandé conseils parce que je savais qu'elle écrivait sur les mêmes thèmes et que forcément, elle allait peut-être comprendre ce que j'avais envie d'exprimer dans ce roman.
Alors à l'écrit, on lit parfois, c'est Faizagen hein, qui est... Oui, oui. On lit parfois certains romans comme on parcourt une carte au trésor. Ajar Paris est de cela. C'est l'histoire d'une quête à travers la transmission et l'héritage des histoires passées. Celles qu'on a pris la peine de raconter ou d'entendre. Celles qui ont été invisibilisées et qui menacent de s'effacer si on n'y prête pas attention. Mais surtout, découvrir et comprendre ces histoires, c'est une chance de trouver la clé de la légitimité et de l'estime de soi en tant que citoyen. Et elle ajoute, j'ai eu le privilège de découvrir ce texte début janvier 2019. Alors quand vous décidez de commencer à écrire, justement, ce qui est très aussi réussi dans le livre, c'est que bon, il y a en effet le décès de votre grand-mère, après vous partez là-bas, parce que la tradition, vous décidez d'y aller assez rapidement.
Enfin, oui, oui, bah, en fait, ma grand-mère vivait en France, mais avait pris un jour la décision de retourner vivre au Sénégal, et elle m'avait dit, bon, le jour où j'y retourne, tu m'accompagneras. Alors finalement, elle y est retournée, mais c'est malheureusement son corps qui est retourné en Mauritanie, au Sénégal, pardon, et donc, comme je lui avais fait cette promesse de l'accompagner, de la raccompagner au pays, j'ai pris la décision de l'accompagner, mais c'était voilà, une promesse qu'il fallait que je tienne.
Et après, à partir de là, oui, ce que je trouve intéressant dans le roman, c'est que oui, c'est très progressivement, en fait, que finalement, on a le sentiment que c'est en cheminant avec votre père sur place que... On ne s'y attend pas. Hein. On dit, et d'un coup, voilà, vous décidez, vous voyez avec votre père, d'écrire finalement sur sa vie. Il va vous parler, il va évoquer, vous allez vous faire un peu son porte-parole, en quelque sorte.
C'est ça. Voilà. En fait, je lui demande de me raconter son histoire. Parce que alors, dans la tradition africaine, c'est vrai qu'on passe souvent par l'oralité pour raconter les histoires. Mais le danger de l'oralité, c'est que finalement, le temps passant, ben, les histoires finissent par disparaître. C'est pour ça que c'était important pour moi de fixer la parole de mon père dans un roman. Et effectivement, je lui demande de me raconter son histoire. Et j'écris progressivement, en fonction de ce qu'il me raconte. Et c'est vrai que j'avais pas de... J'avais pas de canevas au début. C'est vraiment lui qui a un peu dirigé mon écriture. Et le truc, c'est que... Alors, mon père va très souvent au Sénégal parce que maintenant, il est à la retraite. Donc, parfois, je pouvais pas écrire parce qu'il était pas là pour me raconter une partie de son parcours. Donc, j'étais vraiment dépendante de la parole de mon père. Mais Ajar Paris reste quand même un roman parce que même si je me suis fortement inspirée de son récit, il y a forcément des choses que j'ai dû imaginer parce que mon père refusait de me les raconter par pudeur d'une part, et aussi parce que je pense que c'était compliqué pour lui de montrer ses faiblesses à sa fille, surtout qu'il a toujours montré l'image d'un homme assez sûr de soi, et puis sûr de lui, pardon. Et je pense aussi qu'il y a certaines choses qu'il ne me racontait pas parce qu'il estimait que ce n'était pas forcément important, alors qu'à travers le prisme de la Parisienne que je suis, je trouve que c'est assez extraordinaire et qu'il y a matière à raconter.
Oui, parce qu'à un moment donné, vous lui demandez même, il y a un épisode très précis, là, est-ce que du coup, vas-y, raconte-moi vraiment, il est
oui,
là,
parce que
il hésite.
Enfin, bon. Il arrive en France en prenant un bateau, et donc je lui demande, mais comment tu as rencontré ce passeur qui t'a permis de monter sur ce bateau pour Marseille? Et il me dit, ah non, mais ça, je ne peux pas te le raconter parce que je ne veux pas qu'il ait des problèmes. Mais ça a eu lieu en 1975, donc je pense qu'il n'y a pas de risque que la personne... Il y a prescription. Mais lui, il était encore dans cette idée de « non, non, je ne peux pas le raconter, si tu le racontes, il va avoir des problèmes ». Bon, j'espère qu'il n'est plus au Sénégal à vendre des tickets pour Paris, pour Marseille, j'espère qu'il a évolué. Mais effectivement, il ne voulait pas me raconter cette partie de son histoire.
Et puis, ce qui est très étonnant, c'est la façon parfois dont, enfin étonnant, je sais pas, mais dont il vous dit à un moment donné, finalement, il arrive en France, évidemment, il est en situation illégale, parce qu'il n'a pas de... Et vous lui demandez, mais tu n'as pas eu peur de te faire contrôler par la police? Non, il dit, j'avais mon gris-gris.
Ah oui, alors c'est il est persuadé génial. Qu'il avait un gris-gris, ouais, ouais. Il avait son gris-gris. Et du coup, il était persuadé que la police française ne pouvait pas le voir. Alors moi, même si je peux croire à ce genre de choses, là, je lui ai dit, non, mais c'est pas possible. Il faut vraiment que tu me donnes quelque chose que je puisse vérifier. Il me dit, non, mais vraiment, on ne pouvait pas me voir. Est-ce que j'ai été arrêtée? Je lui dis, non, t'as pas été arrêtée. Il me dit, bah voilà, c'est parce que j'avais mon gris-gris. Et donc, il y a une croyance comme ça, mais tellement importante dans ces petites choses qui fait que vraiment, il avait le sentiment d'être protégé et qu'il ne pouvait pas être arrêté parce qu'il était protégé par son gris-gris. Et pour lui, c'est tout à fait normal. Voilà, c'est quelque chose qui fait partie de sa culture et il n'a aucun doute là-dessus. Alors que pour nous qui sommes français, ce n'est pas quelque chose d'audible. Mais bon, ça a fonctionné visiblement.
C'est aussi un peu l'histoire, évidemment, de toute la quête des papiers, de la régularité, des situations. Il est baladé, il vit d'abord dans un foyer, puis dans un autre. Comment on trouve un travail, la difficulté, apprendre la langue, parce qu'évidemment, il arrive... Donc, du coup, il prend des cours. Et aussi, c'est un peu l'histoire politique aussi, parce qu'on suit l'arrivée de François Mitterrand en 81, le changement un peu de la législation. Enfin, il y a tout ça qui est en arrière-plan.
C'est ça, c'est... Je pense que ce roman montre aussi qu'il y a certaines décisions politiques qui peuvent bouleverser des vies. Et effectivement, moi, mon père, toute sa vie, il avait l'impression de voir quelque chose au Parti Socialiste, parce que justement, c'était Mitterrand qui, un jour, avait décidé de régulariser tous les sans-papiers et sans même poser de questions. C'est-à-dire que mon père, il a rendez-vous à la préfecture, il est un peu angoissé. Et le policier lui dit « Non, mais en fait, il n'y a pas de mauvaise réponse. Vous pouvez nous dire la vérité. On sait que vous êtes rentré sur le territoire de manière irrégulière, que vous avez travaillé avec de faux papiers à votre nom, puis que vous avez utilisé les papiers d'un tiers. » Et forcément, mon père... Alors, ça va lui causer un peu du tort par rapport à ses cousins, parce que justement, quand il est régularisé, ça signifie pour lui qu'il peut rester durablement en France. Alors que lui, quand il quitte son pays, il pense qu'il va venir travailler quelques années et qu'il va ensuite retourner à Ajar. Et là... La facilité que c'est d'avoir des papiers français, d'avoir la nationalité française, fait qu'au bout d'un moment, il finit par faire sien son pays d'accueil et il ne retourne plus chez lui.
On sentait une certaine revendication dans sa manière de répondre. Oui, il avait été un clandestin. Oui, il avait été un sans-papier. Et il en était même fier. Pourtant, cette désignation de sans-papier était devenue dans mon enfance un terme de moquerie, empreint de mépris, souvent prononcé par des enfants d'immigrés d'ailleurs. Quand on voulait discréditer une personne ou se moquer de quelqu'un qui parlait avec un fort accent ou avait un style vestimentaire qu'on jugeait démodé, on disait que c'était un sans-papier ou un blédard de manière équivalente, même s'il y avait une nuance entre les deux, oubliant qu'on était nous-mêmes issus de ces hommes-là. Un jour, parce qu'ils avaient quitté leur patrie pour devenir des sans-papiers dans une autre, nous avions échappé à ce statut. Alors, naturellement, mon père s'appropriait cette injure et la revendiquait comme jadis d'autres avaient revendiqué leur négritude. Et on voit l'importance.
Exactement,
profonde.
Parce que moi, un jour, je regarde une émission à la télé avec ma petite sœur qui a 13 ans de moins que moi, et elle voit des migrants qui arrivent en Europe, et elle est très choquée. Et mon père lui dit, mais tu sais que j'ai fait partie de ces hommes-là. Et elle, qui a juste 13 ans de moins que moi, c'est pas tant que ça dans l'histoire de mon père, elle n'avait pas connaissance de cette partie de son histoire, elle ne savait pas que mon père était venu en France de manière, en étant en situation irrégulière. Et je trouvais important qu'elle sache qu'elle faisait partie de... qu'elle était issue de ces hommes-là, même si c'est une immigration aujourd'hui qui est différente, parce que mon père, c'était une émigration qui était économique. Les gens qui quittent leur pays, là, c'est parce qu'ils quittent des pays qui sont en guerre ou des pays où ils sont persécutés. Mais effectivement, quand on grandit, nous, les enfants d'immigrés, on a l'impression qu'être sans papier, c'est une insulte. Voilà, on a grandi comme ça et on se moque des sans-papiers. Alors qu'en réalité, on a des parents qui ont été un jour sans papiers. Et le fait qu'ils aient été sans papiers a fait qu'un jour, nous, on est nés en France et qu'on a été des Français de naissance, si je puis dire les choses ainsi.
Christophe Markogiannakis, donc là, on repart en Grèce, si je puis dire. C'est la troisième fois que vous avez un héros récurrent, comme on appelle...
Christophoros Markou, oui, Markou, un peu mon alter ego. Oui, c'est sa troisième enquête. Ouais. Et il est un capitaine de la police grecque, il a fait un master 2 en criminologie comme moi. Je l'ai créé au début comme un alter ego, mais puis il faut dire qu'à partir d'un moment il est devenu totalement indépendant et maintenant je ne suis que son chroniqueur, donc c'est lui qui choisit, c'est lui qui acte et moi je ne fais qu'écrire et suivre ses enquêtes.
Comment peut-on le caractériser, ce Markou? Quelle est sa personnalité? Qu'est-ce qui vous séduit chez lui un petit peu, ou vous irrite aussi, peut-être?
Alors, on partage certaines caractéristiques, c'est-à-dire on partage notre amour pour la littérature noire, la littérature policière, et de cette époque qu'on appelle l'époque dorée de la littérature policière, c'est les années 20-30, Agatha Christie, Dorothy Sayers, Josephine Tay. On partage notre amour pour la Calas, voilà. Mais sinon, on n'a pas beaucoup de choses en commun. Lui, il est plutôt solitaire. Il est quelqu'un qui a son propre code moral, parfois trop strict. Et moi, je suis plutôt social. J'aime le contact humain. J'aime parler aux gens. Lui, il est vraiment. Il ne vit que pour son travail. il dit, parce que parfois il regarde les livres à sa bibliothèque qui lui ont inspiré cette envie de devenir policier, il dit, moi-même, il dit, je n'aurais jamais pu être le personnage d'un roman parce que je n'ai rien de spécial. Je ne suis ni drogué, ni alcoolique, je n'ai pas des problèmes familiaux, et je ne fume pas une pipe, je n'ai pas une moustache comme Hercule Poirot, donc je suis un citoyen lambda, un policier lambda, et personne n'aurait jamais me choisi pour me faire le protagoniste d'un roman policier. Mais voilà, moi, je l'ai choisi, ou il m'a choisi, je ne sais pas.
C'est peut-être ça, oui.
Si c'est l'inverse. Et ça fait maintenant, oui, trois enquêtes. Et la quatrième va venir chez Plon, toujours.
Ah, déjà ça,
Oui.
N'arrêtez pas.
En mai prochain. Non, j'écris. j'ai quitté, je n'exerce plus comme avocat pénaliste. Donc, parce que j'ai dit toujours que je préfère le meurtrier dans les pages que dans la vraie vie, parce qu'il faut dire que comme avocat pénaliste, j'avais défendu des meurtriers, j'avais défendu des intérêts des familles des victimes, mais dans les livres, on peut contrôler le meurtrier, on peut les punir, on peut les exposer, qui n'est pas toujours le cas dans la vraie vie.
Le succès exige du travail ou une fatigue physique et morale. Il vous dessèche le cerveau. Marchant dans la rue du bord de mer, Marcus rappela ces paroles du chef. De fait, sa récente intervention dans certaines affaires avait été pour lui un poids psychologique. Il espérait cacher cet épuisement, mais Rovis, qui le connaissait comme s'il l'avait fait, devinait ce que dissimulait le masque du quotidien. Celui-là même, qui lui avait littéralement imposé des vacances une semaine plus tôt, lui donnait donc l'ordre de passer à l'action. Là, on est au début du livre, on est page 50. Il y a eu
le
journaliste assassiné,
tout à fait.
Anglaise.
Alors, il faut raconter alors un peu que Marco a eu deux affaires assez fatigantes, et d'une façon psychologique aussi. Donc, il y a eu une ordre de son patron de partir, de prendre trois semaines afin de se reposer. Il est allé chez ses parents, mais ça ne s'est pas très bien passé. Donc, il a choisi cette petite île grecque fictive, Nissos, pour aller se reposer sans rien faire que lire et nager. Mais il est allé chez une Suissesse qui a une sublime maison où elle faisait une fête, et on découvre dans le débarras, depuis les premiers chapitres, le cadavre de Lucy Davis, qui était une journaliste qui a eu une très très mauvaise idée. Cette idée était de commencer à écrire un roman où elle allait révéler les secrets de ses amis. Et c'est un de ses amis qui l'a tué lors de cette soirée où il y avait une douzaine d'invités, dont Marco. Et son boss lui dit, il faut que tu résoudres cette affaire, parce que sinon le tourisme de cette île sera détruit, donc, qui est la seule source de revenus pour les locaux. Donc il faut qu'on trouve qui a tué Lucy Davis. Et le lecteur avec Marco va enquêter afin de découvrir les coupables à la fin du livre, avec beaucoup de rebondissements, comme à l'Agatha Christie.
Oui, il y a un moment donné, je crois que c'est son capitaine qui lui dit un bon titre pour un polar, ça serait Meurtre sous le soleil grec.
Qui est le meurtre pour la version, qui est le titre pour la version allemande du livre. Ah. Parce qu'en grec, le livre est appelé Roman à clé, parce que Lucy Davis était en train d'écrire un roman à clé, c'est-à-dire un roman où on parle des personnages et des situations vraies, mais sous une petite surface de fiction. Ici, c'est qui a tué Lucy Davis, plus direct, et la version allemande est Meurtre sous le soleil grec.
Jean-Baptiste Maudet, Tropical Tristesse, donc on évoquait Lévi-Strauss, puisqu'il, par rapport à Triste Tropique, est-ce qu'il y avait une idée un petit peu aussi d'aborder un territoire que vous ne connaissez pas, puisque vous n'êtes jamais allé en Amazonie, mais de nous montrer un peu de l'intérieur? C'est un peu une odyssée, parce que c'est vrai que cette femme va progressivement, il y a un rapport au temps, on a le temps, elle se pose, il y a un autre rythme finalement, et elle va progressivement aller jusqu'à Manaus, enfin pénétrer l'Amazonie. Voilà, et c'était des questions que vous souhaitiez vous interroger à un moment donné, vous demandez qu'est-ce que l'Amazonie finalement, qu'est-ce que c'est très concrètement?
Oui, c'est vrai que ça paraît évident, le fait de... Bon, l'Amazonie c'est un espace bien réel, on est d'accord avec ça, mais une fois qu'on est allé en Amazonie, finalement on est allé où? Je pense que c'est la même chose pour un pays aussi grand que la Mauritanie. Quand on dit « je suis allé en Mauritanie » ou quand on dit « bon ben voilà, je suis allé en Grèce », Finalement, certes, on peut apporter la légitimité d'y être allé pour dire quelque chose, mais finalement, est-ce que quelle importance ça a dans par rapport au lieu lui-même que l'on fréquente, qu'est-ce qu'on peut en dire? Et moi, c'est ce fil directeur qui se retrouve un peu dans tous mes romans, ce sont des interrogations, on pourrait dire, à la fois existentielles et géographiques autour des espaces que l'on parcourt. Ça veut dire quoi, être quelque part? C'est pas si évident que ça. Et parfois, ça m'amuse parce que je suis désormais attentif à ça. Quand on voit des amis rentrer de vacances et qui nous expliquent où ils sont allés, bah, parfois on se dit, mais bon, peut-être que j'aurais mieux fait de me passer de cette description, de ces soirées diapos. Parce que aller quelque part, c'est aussi restreindre par une expérience personnelle les lieux que l'on a parcourus. Et l'Amazonie, elle est à la fois bien réelle, mais elle est aussi fantasmatique, elle est mythologique, elle est littéraire. Et c'est vrai que le fait, moi, de ne pas être allé en Amazonie m'a donné beaucoup de liberté pour en fabriquer une qui soit à mi-chemin entre l'Amazonie réelle et puis les forêts que l'on se fabrique, ou les univers éloignés que l'on se fabrique. Et je trouve que les Occidentaux, je les appelle un peu comme ça dans le livre, sont obsédés par l'Amazonie. C'est une forêt qui a une importance cruciale pour nous, qu'on y soit allé ou pas, mais l'Amazonie, c'est un espace qui est lourd de sens.
Du point de vue climatique aussi.
Du point de vue climatique.
Le poumon, les déforestations, tout ça.
Voilà, et tous les lieux n'ont pas le même poids. On en parlait pour la Mauritanie, les gens confondent avec l'île Maurice, et on se rend compte que finalement, qu'on soit allé ou pas dans certains lieux, ils pèsent différemment dans notre imaginaire. Et ça, c'est une question, moi, qui me passionne, de savoir pourquoi certains lieux pèsent plus que d'autres, pourquoi les forêts indonésiennes ou certaines forêts d'Afrique ont suscité très peu d'intérêt ou une indifférence pour leur déforestation, et pourquoi d'autres deviennent au centre de nos préoccupations, comme si vraiment on brûlait notre propre chair. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas s'intéresser à l'Amazonie, hein, c'est pas ce que je dis, mais je trouve intéressant cette relation à l'espace, en fait.
Je pense à une question, vous, en tant que géographe, donc à l'université de Pau, est-ce que vous avez fait lire, vous avez passé votre livre, est-ce que certains de vos collègues qui connaissent l'Amazonie vous ont lu, et quels sont leurs retours? C'est toujours intéressant.
Oui, alors j'oblige tous les étudiants à acheter le livre en début d'année.
J'imagine.
Non, j'avoue que je sépare un peu les choses quand même, mais certains ont décelé chez moi une obsession, notamment quand je suis en train, quand je suis en train d'écrire sur un endroit, j'ai du mal à pas en parler, parce que je fais aussi des lectures parfois de deuxième main, d'anthropologues, de géographes qui travaillent sur ces espaces, et ça me donne des exemples tout près pour en parler aux étudiants, ça arrive, oui.
Et Lévi-Strauss, l'idée vous est arrivée?
Alors c'est Jeanne
rapidement.
Beaulieu qui m'a donné cette idée, parce que à force
c'est une référence quand même à la matière.
Voilà, à oui. Force de rentrer dans sa tête ou elle, même si c'est toujours un peu rhétorique, hein, mais quand on écrit un livre, il y a un compagnonnage qui se crée avec les personnages, qu'ils soient réels ou fictifs. Et ça allait assez bien avec le caractère de Jeanne Beaulieu, de considérer que Triste Tropique de Claude Lévi-Strauss, tout le monde connaissait ce livre, mais que personne ne l'avait lu. C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit à un moment donné. Et je trouvais que cette idée lui correspondait bien. Donc là, on ne va pas jouer à ce jeu-là. Qui a lu, qui connaît Triste Tropique?
La première
et qui
phrase,
l'a lu.
Généralement. Ouais.
Voilà. Et c'est vrai que c'est amusant parce que là aussi, c'est comme certains espaces, il y a des ouvrages. Bien, on les a plus ou moins lus, on les connaît, on peut s'en servir d'ailleurs, et c'est très bien. Mais là aussi, ça veut dire quoi aller quelque part, et ça veut dire quoi lire un livre? Donc il y a des choses que. Et Les Tristes Tropiques, pour moi, est un livre fascinant de ce point de vue-là, parce que c'est un livre très étrange. Il est à la fois composé d'études ethnographiques, c'est à la fois un livre de confession, c'est un livre qui a été écrit malgré tout 15 ans après les faits, puisque Claude Lévi-Strauss reste au Brésil de 34 à 39. De 35 à 39, et quand il publie dans la collection Terre humaine Triste Tropique, l'ouvrage paraît en 1955 à la demande de Jean Mallory, donc il mobilise aussi des souvenirs qui sont très anciens, et c'est un livre assez étonnant parce que Triste Tropique, le titre lui-même, était le titre du roman que voulait écrire Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss voulait écrire un roman, il comptait l'appeler Triste Tropique, et il s'est lui-même rendu compte, enfin il s'est lui-même pas rendu compte, mais il a décidé qu'il faisait du mauvais Conrad et que donc il ne pouvait absolument pas être capable d'écrire un roman d'aventure. Donc c'était son grand regret, et il a gardé quelques pages, une quinzaine de pages, qui sont toujours dans le Triste Tropique actuel, qui sont les pages en italique, une quinzaine de pages sur les couchers de soleil, et qui auraient dû être le début du roman de Claude Lévi-Strauss, Triste Tropique. Donc ces emboîtements, moi, m'intéressent bien comme moteur de la fiction, puisque pour Jeanne, l'exemplaire qu'elle a est aussi un livre qui est autre chose que Triste Tropique.
Jeanne, elle est dans une quête aussi, quelque part, une quête personnelle. C'est aussi une femme sûrement en recherche d'elle-même. Elle écrit à un moment donné... Enfin, elle écrit. Enfin, c'est, elle dit, oui, c'est vous qui écrivez. Je me dis que j'irai jusqu'au bout de cette quête, aussi vaine soit-elle. Il reviendrait au même qu'elle est un but. Il doit bien exister un proverbe chinois pour dire quelque chose de si profond.
Oui, Jeanne, elle se moque aussi. Alors, elle se moque beaucoup de sa belle-sœur, Jeanne. Elle en fait une structure anthropologique forte. Donc, elle se moque beaucoup de sa belle-sœur, qui a toujours des proverbes asiatiques, venus d'Asie, pour le dire comme ça, parce que c'est un horizon très flou pour sa belle-sœur, qui résume des évidences par des phrases toutes simples. Et Jeanne, elle est à la fois traversée par ces questions toutes simples que tout le monde se pose. C'est des questions existentielles, mais souvent elle désamorce la gravité ou la dimension pathétique de certaines questions par précisément des banalités. Voilà.
Fontaine-Ramey, ce que disait, c'est intéressant ce que disait Jean-Baptiste Maudet, quand on va dans un pays, vous êtes allé dans votre pays d'origine, quel regard vous le portez maintenant sur ce pays, c'est intéressant de connaître après vraiment. Avant c'était, on vous en parlait, c'était une imagination.
Bah, moi, j'ai beaucoup d'affection maintenant pour Ajar. Alors, c'est vrai que quand j'y suis allée, je suis restée qu'une seule journée à Ajar et ensuite je suis retournée à Nouakchott. Mais pourquoi est-ce que j'ai de l'affection pour ce village maintenant? C'est parce que c'était un voyage géographique au début, ce départ à Ajar, puis c'est devenu un voyage culturel parce que j'ai découvert la culture de mon pays d'origine. Et ça s'est transformé ensuite en voyage intime parce que ça m'a permis de rencontrer l'histoire de mon père et donc une part de mon histoire parce que forcément, je viens aussi moi-même d'Ajar. Et ça m'a permis donc de compléter, d'apporter une part de plus à mon identité. Alors maintenant, je sais que je savais très bien que j'étais une Parisienne. Et puis, je savais aussi que j'étais une Sénégalaise parce que j'allais souvent au Sénégal. Et ce voyage à Ajar m'a permis de me rendre compte que j'étais aussi une Mauritanienne, même si ça ne se ressent pas dans ma vie de tous les jours. Voilà. Mais voilà, à certains moments, je me sens maintenant très Mauritanienne. Et je sais qu'une part de mon histoire est à Ajar.
Est-ce que des liens, du coup, plus forts ont été créés avec les personnes là-bas?
Alors,
au niveau du ressenti, je veux dire aussi.
J'y suis pas retournée, mais j'y retourne à la fin du mois pour présenter mon roman avec mon père. Donc, j'imagine que ça va être extrêmement émouvant de retourner dans ce pays, d'y aller avec mon père qui l'a quitté pour devenir sans-papiers en France et qui revient avec sa fille qui a écrit un roman sur ce parcours, justement. Donc, j'ai hâte d'y retourner et de... C'est qu'à ce moment-là que je saurais ce que ça fait de retourner comme ça à Ajar.
Alors vous, la question, évidemment, vous connaissez les lieux, vous êtes grec, mais est-ce que le fait d'écrire justement des romans, des polars, des romans noirs qui se déroulent en Grèce, comment sont-ils accueillis? Parce que vous écrivez en grec, c'est traduit, vous parlez très bien français, mais c'est traduit, donc excellemment bien traduit. Du reste, je cherche le nom de la traductrice, vous avez peut-être...
Hélène Zervas.
Voilà. Comment ces livres sont-ils accueillis en Grèce? Quels sont les retours sur les lieux?
Écoutez, j'écris en grec ou en anglais, et puis je suis traduit, oui. Et les livres sont très très bien accueillis, en Grèce aussi, mais il faut dire que il faut de couvertures différentes, parce que si je mettais une couverture comme cette très très belle carte postale grecque en Grèce, ça n'aurait jamais marché, parce que la couverture classique, si vous voulez, de romans policiers en Grèce, c'est les noirs et rouges, donc tout est noir et rouge. Les romans sont bien accueillis partout et encore plus en France, parce que j'ai la chance de vivre dans le pays le plus philhellène du monde. Et depuis le premier instant, quand je suis arrivé en France en 2011, j'étais vraiment accueilli d'une façon très chaleureuse, et je dis toujours que je me sens chez moi en France pour la première fois dans ma vie. C'est bizarre peut-être, mais c'est la vérité.
On me dit qu'on va devoir, évidemment, parce que vous êtes attendu pour repartir. Voilà, ouais, les dernières navettes, oui. Ah bah écoutez, il me reste à vous remercier beaucoup. Fontaine Dramé, donc, Ajar Paris, chez Plon, la rentrée littéraire. Christophe Markogiannakis, Qui a tué Lucie Davis, c'est chez Plon également. Merci. Avec un sous-titre, Le crime presque parfait. Et Jean-Baptiste Maudet, Tropicale tristesse, aux éditions Le Passage. Alors, merci. Malheureusement, vous êtes obligé de partir. Oui. Vous n'aurez pas le temps, de dédicacer. Vous n'avez encore qu'un petit moment, je crois, Jean-Baptiste Maudet.
Dix petites minutes, je pense.
Pour Jean-Baptiste Maudet, qui va donc dédicacer son ouvrage. Vous êtes Jean-Baptiste sur le stand L25, donc sur le stand des éditions Le Passage. Merci infiniment à tous les trois.
Merci à vous.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci à vous.